If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
C'est parti.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast, Le Plein de Sens.
Je suis Anne-Sophie Supiot.
Je m'appelle Grégory Vacher.
Vous êtes en quête de sens, et ben ça tombe bien parce que nous aussi.
Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah nous aussi.
Comment tu sais tout ça toi?
Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous.
Quelle bonne idée.
Oui.
Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui?
L'enfant intérieur, avec Bénédicte Sillon.
Merci Francine.
Alors, on y va.
Bonjour tout le monde.
Bonjour et merci d'écouter ce podcast. On vous le dit souvent, merci, mais pourquoi? Parce que si vous n'étiez pas là, nous on serait pas là et personne ne serait là, la planète serait vide et du coup genre les écureuils ils feraient « Y'a quelqu'un ?» Ben non, y'a personne, tu vois ce que je veux dire? Voilà, je voulais commencer avec un petit peu de philosophie et j'espère que ça vous a touché. Voilà, j'aime bien des fois.
En plus, c'est bien que tu parles de ça parce qu'on va parler de choses qui pour certains peuvent paraître abstraites puisqu'on va parler de l'enfant intérieur.
Abstraite.
Oui, les gens corrigeront chez eux.
Ouais.
Mais l'enfant intérieur, ça peut paraître abstrait, ça peut paraître comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là?
On va en parler avec une psychologue déjà et non pas avec quelqu'un qui est sur Instagram et qui donne. Attention, j'ai rien contre Instagram, mais c'est que des fois des gens nous donnent des vidéos sur tel thème. Alors je vous racontais ce que c'est ça et l'enfant intérieur et machin. Alors que c'est pas forcément des spécialistes. Là, je peux vous dire que la personne qu'on va avoir.
Elle est en béton, mon pote.
Et s'il devait y avoir la spécialiste des spécialistes.
Ce serait elle, Bénédicte Sillon.
Bénédicte Sillon, qu'on va avoir dans quelques instants. Et l'enfant intérieur, ouais, c'est un sujet hyper intéressant, je trouve. Et en même temps, je ne saurais pas comment le définir. C'est ça qui est dingue. Ce que je sais, c'est que des fois, tu ne te sens pas bien dans ta vie. Tu as l'impression qu'il y a une partie de toi qui est blessée. Et ça peut venir de là. Ça peut venir de trucs qui t'ont touché quand tu étais dans la toute petite enfance.
Et alors, sachez que si vous voulez aller plus loin, en plus, elle a sorti un livre qui s'appelle « Les blessures d'enfance, les connaître sans remettre ». Aux éditions MAM.
Ouais.
Donc, on peut aussi parler des blessures de l'enfance un petit peu avec Bénédicte, si bah, tu écoute, le veux bien.
Hey, on va suivre, on fait comme d'habitude.
Hein,
on
hey, au gré du vent. Hein.
On suit la conversation. Si ça dérive à un moment et qu'elle dit « Ah, vous avez vu sur TéléZ, apparemment, Christophe de Chavannes, il aurait crevé un pneu de sa voiture. » Bon, ben, on parle de ça, tu vois.
C'est vrai que TéléZ, ils auraient vraiment fait un gros coup, là, s'ils avaient parlé de ça.
Déjà, TéléZ, est-ce qu'ils parlent encore? Bon, on sait pas. Bon, on leur fait des gros poutous.
Accueillons-la, elle est tout de suite dans le sas. Elle attend.
Ah, ça y est, on n'a plus qu'à valider sur notre computer. Attention, on l'accueille, c'est parti.
Bonjour Bénédicte.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour, merci d'être avec nous. Surtout que voilà, on va dévoiler un peu les coulisses, mais Bénédicte est un peu malade. Tu sors d'une grippe ou tu es encore en plein dans la grippe, quoi?
Ouais, mais non, ça va vachement mieux.
Ouais.
Mais le petit côté voix voilée n'est pas désagréable. Hein.
Au moment où on enregistre ce podcast, il y a Anso aussi qui oui. sort d'une opération.
Oui, je me suis fait opérer de la gorge. On m'a enlevé une partie de la thyroïde. Et on croit vraiment que j'allais pleurer, mais c'est juste que ça a eu une petite incidence sur ma voix, donc parfois ma voix elle part un peu.
Ah, faut que tu ailles doucement quoi.
Ouais, un tout petit peu.
T'as une cicatrice un peu comme dans. C'était quoi C'est pas un film de Tim Burton où il y a des créatures comme ça qui sont recousues?
Oui, on dirait, c'est vrai, un déguisement mal fait d'Halloween.
Ouais, sa tête peut tomber à tout moment.
En fait, c'est pas ça. On dirait très clairement qu'on m'a offert un collier, mais qui était trop petit pour moi. Et que, quand même, pour pas vexer la personne, je l'ai porté pendant 15 jours.
Il était en barbelé. Bon.
Bon, bref, Bénédicte est avec nous. On vous le disait, Bénédicte, tu es psychologue.
Ouais, tout à fait.
Et aujourd'hui, nous allons aborder avec toi un thème dont on a déjà parlé dans notre passé radio, Greg, c'est notre enfant intérieur. Et j'aimerais d'ailleurs savoir, est-ce que tu peux te définir ce qu'est l'enfant intérieur déjà avant de commencer?
Je dirais que l'enfant intérieur, c'est cette partie de nous-mêmes qui s'est déployée depuis qu'on est conçu et qui continue de nous animer même quand on est adulte. C'est-à-dire que c'est vraiment les premières expériences et toute cette période, on va dire, entre zéro jour, zéro minute dans le ventre de la mère jusqu'à, on va dire, là où commencent les mots, on commence à pouvoir penser. Et cette partie-là, elle reste active, elle ne s'éteint pas. On ne devient pas un adulte, on ne change pas, il n'y a pas un groupe d'adultes magiques qui nous transforme. Il y a vraiment une continuité. Mais comme il y a des couches, on va dire, supérieures de compréhension, d'être, etc., qui vont s'ajouter au fur et à mesure du temps, et c'est nécessaire, Parfois, cette partie d'enfance où les choses sont plus intuitives, instinctives, très affectives, peut être assez écrasée, mise de côté, parfois même dévalorisée. Et du coup, le sujet de l'enfant intérieur, c'est garder du contact, reconnecter avec avec cette partie de la nous-mêmes qui est toujours vivante, pour qu'elle puisse nourrir notre adulte, nous aider à faire, à la fois être connecté dans notre réalité avec le monde tel qu'il est, affectif, sensoriel, etc. Et puis en même temps, que notre adulte puisse aussi, guider cet enfant intérieur vers sa pleine réalisation, parce que c'est pas l'enfant intérieur qui serait l'être accompli et il faudrait n'être qu'un enfant intérieur, parce qu'à ce moment-là, on resterait des gamins. Alors, on a notre vocation, notre ligne, c'est pas de rester des enfants, c'est bien de devenir des adultes et de nous déployer. Mmh. Pour autant, l'enfant intérieur, c'est important qu'il reste vivant, disponible, qu'on en prenne soin, parce qu'il nourrit une forme de flamme, d'intuition, de quintessence de vie, je dirais, qui est précieuse et qui peut vraiment nous guider et nourrir, et puis qui met de la relation avec les autres aussi, une forme de spontanéité et d'affectivité non conventionnelle, non normée, vraiment d'intuition et de sensibilité brute.
Donc en fait, quand on pense enfant intérieur, on pense plus à naturel, authenticité, intuition. Enfin, c'est ce que j'entends quand je t'entends parler, c'est que c'est peut-être aussi la partie de nous-mêmes qui a pas encore, qui s'est pas encore mis des barrières, qui est pas encore, qui n'adapte pas encore forcément son comportement aux autres en se disant attention, comment je vais être jugé, etc.
Ouais, c'est ça. Après, moi, je fais un peu attention parce que, notamment dans le développement personnel et puis dans certaines mouvances, on a un peu tendance à idéaliser l'enfant intérieur, quoi. Voilà, ce serait l'enfant intérieur. Il faudrait rester un enfant intérieur. Enfin, il y a un côté un peu, un peu magique. Ouais. Ce serait un peu rousseauiste, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est pas forcément juste parce que dans l'enfant, il y a aussi dans l'enfant intérieur et dans l'être, quand il n'est pas encore déployé pleinement, il y a aussi beaucoup de violence. Il y a aussi des choses qui sont très brutes, de fonderies, qui sont pas que douceur et papillon, quoi.
Ouais.
Donc donc l'idée de l'enfant intérieur, c'est oui, cette partie de nous-mêmes qui est effectivement instinctive, effectivement non conventionnelle, qui a pas encore mis des barrières, mais aussi qui est pas capable d'orienter son agir en fonction d'une volonté, en fonction d'une décision qu'il a prise, qui est peu capable de temporiser. Voilà, donc il y a aussi ça dans l'enfant. Ah, ce n'est pas que tout beau, tout joli, tout mignon. Voilà, il y a aussi quelque chose qui, enfin, un déploiement de, comment dire, il y a peu de déploiement de la personne, hein, donc on voit bien le tout petit, c'est très mignon, c'est adorable, c'est charmant, mais on peut pas dire qu'il y ait forcément une capacité à la générosité, au don de soi, chez un tout petit, quoi. Ça, c'est...
Oui, et puis en plus, c'est même pas foutu d'aller sur impots.gouv.fr, enfin, ça n'a aucun intérêt.
Il y a quelque chose, moi, qui m'a toujours compliqué la compréhension de tout ça. C'est que quand on parle d'enfant intérieur et de mon enfant intérieur, par exemple, j'ai déjà fait, par exemple, des stages, des séjours de développement personnel où j'ai lu des choses qui parlaient de l'enfant intérieur. Ça me dissocie de cette partie, en fait. C'est comme s'il y avait une deuxième partie en moi. Et du coup, ça rend la chose difficile de travailler dessus ou de se reconnecter avec, parce que j'ai pas cette impression d'avoir deux personnes en moi, c'est-à-dire d'avoir un côté adulte et un côté enfant. Donc, comment aborder que personne aujourd'hui, en tant qu'adulte, cet enfant intérieur? Est-ce que c'est une partie de soi distincte, ou est-ce que finalement on pourrait parler de ça en utilisant peut-être d'autres mots?
Alors, je te rejoins complètement. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a aussi, comment dire, en psychologie, on parle des états du moi. Et en fait, je dirais plutôt que dire, voilà, il y a un enfant intérieur puis un enfant adulte, enfin un moi adulte. En fait, on serait plutôt comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Mmh. Et l'idée, ce serait peut-être qu'il y ait entre guillemets le moins d'interstices ou de vide entre ces différentes petites poupées.
Ok.
Tu vois, entre le tout petit bébé d'un jour, celui de 3 mois, celui d'un an, le petit garçon à l'école en CP, etc., qui est pas d'espèce de gap où on a où à l'intérieur on se dit voilà, mais en fait je suis passée de j'étais dans les bras de ma mère à je commence à écrire, quoi. Okay. Avec un sentiment un peu d'étrangeté, voilà. Et c'est vrai que c'est délicat, parce que on voit bien, ça c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup en thérapie et autour de comment est-ce que on permet au système interne, donc le système corps-esprit, d'avoir de la continuité dans le sentiment d'existence. Et ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est pas juste j'arrive à parler à mon enfant intérieur, j'arrive à parler à mon adulte, si on prend par exemple l'analyse transactionnelle, on travaille pas mal avec ces choses-là, mais comment est-ce qu'à l'intérieur de moi, j'arrive à construire un sentiment de continuité, de linéarité aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, et puis un autre, jusqu'à ce que je sois ce que je suis aujourd'hui, ce qui fait que là où je suis aujourd'hui, je suis en capacité de venir mobiliser telle ou telle période de ma vie de façon tranquille. Elle est dans le passé. Voilà, j'ai été un ado qui a fait des conneries, mais voilà, j'en ai appris des choses et je suis à la fois cet adulte qui a dépassé ce stade de devoir sans arrêt faire de la provoque et en même temps, je suis capable d'aller retrouver des sensations, du contact avec cette part de, entre guillemets, de rébellion ou de non-conformisme qui est propre à l'adolescence et dont on va avoir besoin encore parce que on est un adulte que pour autant on doit n'être que dans les règles et les conventions et le mental. Ce serait triste, enfin, on se coupe.
Bah justement, alors là du coup, ce que tu dis m'offre une nouvelle compréhension. Donc c'est comme s'il y avait, ça nous aidait à avoir une mémoire globale de qui on était et à pas oublier un passé parce que finalement il nous convient plus ou que on est dans des nouveaux repères, nouvelle vie d'adulte, etc. Et que du coup le fait de savoir vraiment de tout notre être qui on est depuis le début. Ça nous permet de puiser dans les ressources qu'on a depuis toujours et puis aussi de se pardonner quelque part peut-être des faux pas qu'on a pu faire en se disant ok, aujourd'hui je ne le referai pas mais c'est peut-être grâce à ça quelque part que j'ai pu comprendre des choses. Et ça donne quoi un adulte complètement coupé de son enfant intérieur? Est-ce qu'il y en a beaucoup dans notre société? Est-ce que c'est quelque chose de difficilement quantifiable?
Vous pouvez répéter la question, est-ce que je pourrais pas répondre? ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enfin, j'ai envie de dire que on est dans une société qui est un mode de fonctionnement qui coupe beaucoup. C'est un humoriste, j'ai perdu son nom, c'est dommage, parce que qui racontait, et puis c'était repris par Pierre Rabhi, et qui disait, voilà, on évolue, alors on est dans sa... on est dans sa petite case et puis on va au boulot dans sa caisse et puis on va au boulot c'est sa boîte et puis etc. Et en fait on est dans un environnement, alors je parle de la France, l'Europe, le monde, on va dire alors occidental, en même temps ça a une connotation qui peut être un peu compliquée ce truc là mais voilà, dans nos environnements urbains, mais c'est pas que urbain parce que ça, à la campagne maintenant c'est quasiment la même chose, où voilà, chacun est dans sa petite boîte, il n'y a plus d'ensemble. Et ça amène en fait vachement de coupures. En fait, il y a une dimension bien sûr personnelle, traumatique, je reviendrai, enfin, de choses qui peuvent être douloureuses et qui font que il y a de la coupure dans le sentiment de continuité. Mais il y a aussi un mode de vie qui clairement favorise pas du tout ni la continuité, ni l'intégration entre le mental et l'affectif et le corps. Voilà. Et ça, c'est relativement contemporain et ça va pas en s'améliorant. Et en fait, ce qui est un peu paradoxal, enfin. Et on voit bien d'ailleurs, moi je suis assez, enfin on est pas comment, mais on est assez saisi de voir comment le développement personnel, le coaching, les ressources de stage, etc. Autour justement de je laisse parler mes émotions, je me connecte, font floresse parce qu'il y a une soif, il y a une soif énorme de nos contemporains parce que enfin. Le mental et le rationalisme font du mal. Ça nous coupe. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui est sec, qui est aride. Et donc, ça génère voilà, des choses qui sont douloureuses. Et donc, les contemporains vont aller chercher dans plein de stages un peu mieux-être, un peu de j'essaie de justement de connecter à mon enfant intérieur associé à cela. Avec un côté parfois un petit peu par le petit bout de la lorgnette. Quoi. Voilà, c'est chouette. Et parfois, ça donne des jeux, enfin, ça fait des clés d'entrée. Ouais. Mais en même temps, comment dire, c'est un peu cautère sur jambe de bois, quoi, parce que moi, ce que je vois aussi et ce que j'observe beaucoup en consultation, c'est toujours très beau, tu parlais du pardon, de se pardonner à soi-même. J'irai même plus loin parce que ça permet aussi d'aller pardonner aux autres, à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui n'ont pas été là, même à ceux qui nous ont beaucoup aimés et dont on sait qu'ils nous ont énormément aimés et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais qui, voilà, qui ont pu aussi nous blesser, qui ont pu ne pas nous apporter ce dont on avait besoin, ce qui n'était pas disponible, parce que ce n'était pas possible. Et en fait, et ça génère quelque chose qu'on peut appeler ouais, un amour plus inconditionnel de soi, des autres. Et ça, ça amène, et tu peux voir le lien avec le social, ça amène derrière à recréer des liens sociaux.
D'accord.
D'abord, au sein de ses propres familles et lieux de vie antérieurs, mais aussi à s'ouvrir aux autres, à s'investir, à se dire bah tiens en fait ça serait chouette d'aller faire telle ou telle chose avec tel autre. Et en fait ça, voilà, ça remet de la vie et c'est une vie en croissance et en relation avec les autres.
D'accord. Donc un enfant intérieur qui serait totalement coupé de nous donne une version de nous, si j'essaie de résumer hein, un peu avec mes mots, et comme ça tu vas te rendre compte si mon enfant intérieur a tout écouté ou si je lui ai fait copier sans ligne. Non mais en gros, on est dans le mental quoi quand on est coupé de ça. Donc on est dans la logique, on est plus des machines que des humains quelque part, c'est des robots quoi. Et c'est ce qui fait qu'on peut très vite se perdre et peut-être tomber en dépression, avoir un burn-out ou parce qu'il y a un moment ça doit rendre fou. Et d'un autre côté. J'ai l'impression que c'est l'image que cette société valorise beaucoup, c'est-à-dire des gens performants qui font avancer leur entreprise, qui gagnent de l'argent, et tout ça, c'est grâce à la logique, au côté très cérébral souvent que tu arrives à ça. Et alors que quand tu es un peu plus dans l'émotionnel, dans un cadre professionnel, tu peux te manger des réflexions, tu peux souffrir parce que autour de toi, on va te dire mais attends, les émotions, ça reste à la maison, ceci, cela. Et je sais pas, mais cet enfant intérieur, en fait, je sais pas pourquoi, mais pendant très longtemps, moi, si tu veux, quand j'y pensais, tu vas me dire si c'est répandu, mais il y a des larmes qui venaient directes, mais directes, sans que je comprenne forcément pourquoi. Mais il y avait des pleurs, c'est-à-dire que la première fois qu'on m'a parlé de l'enfant intérieur, c'était dans le cadre d'une méditation. Je crois que c'est la première fois que je pleurais adulte. Comme quand j'avais 4 ans et demi. Les pleurs avec le petit, c'est ouais. Même pas moi, c'est ma sœur, tu vois, c'est quand tu n'arrives pas à respirer. Et est-ce que ça n'explique pas aussi, quelque part, pourquoi les gens s'en coupent ? Est-ce qu'il n'y a pas des fois quelque chose de perturbant, abyssal ?
Tu imagines si tu te retrouves effectivement à faire je vais pas y arriver devant ton boss, ouais. C'est peur, enfin c'est la entre guillemets c'est la honte absolue, enfin c'est là. Après c'est causé conséquence, c'est-à-dire que plus on éduque en étant dans l'intellectualisme, dans la performance, etc., et plus on risque de couper l'enfant intérieur, donc on va créer de l'écart, et donc effectivement ça va générer ces trucs où à un moment donné, ça finit par péter le plus souvent. Hein. Donc, soit ça pète sous forme effectivement de burn-out, etc., ce que tu disais très bien. Parfois, sous des formes qui sont plus somatiques, hein, des AVC, etc. On sait très bien qu'il y a une vraie dimension psychosomatique. Après, moi, il y a un petit truc qui me gêne un peu dans la perception qu'on a parfois. C'est-à-dire, soit on est intellectuel, soit on est émotionnel. En fait, c'est pas vrai, quoi. D'abord, une émotion, c'est juste une manifestation physiologique d'un écart à l'intérieur de nous. Donc, c'est d'abord physiologique, en fait, c'est ça qui est paradoxal. Hein. On attend ça. C'est pas d'abord affectif, c'est d'abord une réaction physiologique, même si ça traduit quelque chose souvent qui est de l'ordre de l'affectif. Moi, je ferais plutôt effectivement la question de comment est-ce que on favorise ou au contraire on inhibe. On dévalorise, on en empêche le moteur intérieur dans nos vies d'adultes. Le moteur intérieur, c'est l'affectivité, c'est-à-dire ce à quoi on croit vraiment. C'est-à-dire, c'est plus que les valeurs parce qu'elles ont un côté hyper relatif. Une valeur, tout le monde est. Voilà, évidemment, si tu demandes à 20 personnes quelles sont vos valeurs, l'amour, la solidarité, etc. Mais derrière, on n'est pas du tout les mêmes choses. La valeur, elle est relatif. Bon, c'est un peu un. C'est moi ce que j'appelle un peu une tarte à la crème, quoi, une pommade.
Ouais.
Pour autant, tu vois, tu t'évoquais le fait que soit on est dans l'entreprise et la performance, etc., soit on est dans l'émotion. Il y a plein de. Enfin, il y a quand même ribambelle de gens qui sont performants, qui produisent vraiment des belles choses dans les entreprises et qui ne sont pas coupés de leur enfant intérieur.
Ouais.
Qui parlent d'eux-mêmes. Aujourd'hui, en plus, enfin, c'est sympa, ça fait vraiment partie des choses qui sont chouettes. On voit plein de jeunes qui se lancent avec des projets auxquels ils tiennent, quels que soient d'ailleurs les repères, enfin, les environnements dans lesquels ils évoluent, quoi. Mais, et ils font ça avec leur trip, et ils font ça, mais avec leur trip et leur tête. Mmh. Pas l'un ou l'autre. C'est-à-dire que c'est pas deux moteurs qui iraient dans un sens contraire, quoi. Où on aurait d'un côté la dimension émotionnelle et sensitive qui nous ferait rester des enfants un peu immatures, en train de, voilà, incapables de décision, incapables de croissance. Et puis de l'autre côté, du mental qui, lui, nous poussera en avant et serait capable de créer des choses.
Ouais.
C'est plutôt le... C'est quand on arrive à être aligné la tête, le cœur et le corps, alors à ce moment-là, il se passe des très belles choses et qui sont pas délétères.
Bah c'est un peu le problème, moi, je trouve, en entreprise, c'est que j'ai l'impression que ce côté émotionnel peut faire peur à beaucoup de gens, ou en tout cas, ils ne le comprennent pas eux-mêmes parce qu'ils sont trop coupés peut-être de leur enfant intérieur. Et ce qui fait que quand ils ont en face d'eux des gens qui peuvent justement être sur les deux tableaux, ça peut poser problème. Moi, je te dis ça parce que j'ai l'impression qu'avec Anso, on était là-dedans, tu vois, quand on était en radio. Je pense qu'on est... On était là-dedans. À la fois, on voulait faire notre boulot bien et on savait proposer des choses et organiser des trucs. Mais de l'autre côté, on avait quand même un côté émotionnel qui fait que, d'une part, il était peut-être pas toujours très bien compris ou perçu. Mais le plus difficile, en tout cas pour moi, ça a été de vivre, moi, en tant que personne, avec cette émotion, parce que j'avais rien en face ou que j'avais l'impression d'être incompris, et qu'au bout d'un moment, tu peux plus tenir dans cet environnement, quoi, parce que ça fait, je sais pas comment expliquer, c'est une douleur qui est difficile à expliquer, c'est juste que tu te sens incompris, seul, et c'est plus possible, tu peux pas te couper de cette partie de toi-même.
Moi, Anne-Sophie, je regardais Greg, c'est ce que tu sentais aussi, quelque chose de l'ordre.
Oui, alors différemment, en fait, je comprends la douleur, tu vois, dont il peut parler. Moi, sur la fin, c'était plus... c'était pas vraiment de la douleur, moi, c'était plutôt de la résilience, tu vois. Bon, c'est comme ça, de toute façon, l'intérêt ne sera jamais tel que moi je l'attends, en tout cas, aussi fort que je l'attends. Et donc, c'était plus de la résilience qu'autre chose, tu vois, de dire, on n'est peut-être pas dans un environnement qui nous correspond et qui nous comprend, en fait, tu vois.
Et, ouais. C'est, ouais. Après, tout le monde, justement, n'est peut-être pas capable de se dire, c'est comme ça. Et...
En fait, tu as dit vraiment quelque chose d'ultra intéressant, Greg, c'est que, en fait, je pense qu'on n'était pas compris, et particulièrement toi, parce que tu as une vraie grosse sensibilité, tu comprends? Et que je pense que ça leur faisait peur, tu vois, à ces dirigeants, tu vois, qui dirigent tout le temps le même genre de personnalité, tu vois, qui sont très ambitieuses, qui ont envie d'y arriver, qui ont les dents qui rayent le parquet, etc. Alors que Greg était absolument l'inverse. Et je pense qu'en fait, face à des personnalités comme ça, et surtout ces sensibilités-là, ils étaient totalement perdus et ils étaient hyper maladroits, tu vois.
Alors comment ils font ces gens, peut-être plus connectés à l'enfant intérieur quand ils sont dans des cadres comme ça? Qu'est-ce que tu constates, toi? Est-ce qu'il y a des moyens de, en venant te consulter, en travaillant sur soi, est-ce qu'il y a des moyens de se dire, OK, on continue sur le même chemin et on peut s'en sortir? Ou est-ce que irrémédiablement à la fin, faut qu'il y ait un switch, quelque chose qui change?
Je ne crois pas que ce soit irrémédiable. Ce n'est pas un mot que j'aime beaucoup. Mais dans le sens où l'être humain est toujours beaucoup plus riche que ce qu'on peut croire de lui.
Ouais.
En fait, ce que j'observe beaucoup, c'est, et ton histoire, Greg, tu le dis, et Anne-Sophie, tu le reprends aussi, c'est-à-dire que le sujet, c'est pas... Il est un peu différent de... je suis émotionnelle et je suis face à des gens qui sont pas du tout et donc on peut pas se comprendre. C'est comment est-ce que moi je peux intégrer ma part émotionnelle, sensible, intuitive pour que elle puisse être régulée et que même face à du coup et que je sois du coup au bon endroit avec des gens qui peuvent être très différents, soit encore plus sensibles, intuitifs, créatifs que moi, soit très mentaux, cérébraux et voire même carrément on va dire coupé d'eux-mêmes, mais en restant moi, tranquille à l'intérieur. Et ça, effectivement, soit tu l'as reçu, tu l'as construit dans tes expériences de vie passée, etc. Et du coup, c'est disponible et tu sais réguler. Donc, j'en sais rien, la bosse qui a les dents, qui raye le parquet, qui se la joue, je pense le diable s'habille en Prada, ouais. Quoi, qui est à fond dans tout voilà, dans son système, dans son truc. Bon, voilà, tu mets à distance. Et d'ailleurs, c'est marrant, hein, parce que dans ce film-là, bah, c'est ce qu'elle apprend à faire, hein, la Miss, là. Elle apprend à être à distance, et puis à un moment donné, elle fait son choix. Elle va pas aller, elle va pas pour autant aller planter des carottes au fin fond du Nebraska. Juste, voilà, elle va vivre autrement et elle aura intégré une part d'elle féminine qu'elle avait justement, elle, pour le coup, complètement mise à l'écart. Tu vois, je trouve que c'est intéressant, ce film. Alors, il a des côtés très caricaturaux et très comiques, mais il dit bien aussi, en fait, comment on peut grandir et évoluer et pas, et c'est pas ou l'un ou l'autre. Il ne s'agirait pas de, voilà, de dire, bah voilà, je passe d'un mode complètement censuré, coincé, déconnecté, à un mode où il n'y a plus que les émotions et l'enfant intérieur qui est disponible, parce qu'à ce moment-là, je ne suis pas ajustée. Donc, certains, bah, pour certains, ils ont, voilà, ça a pu être construit dans leur enfance, dans leur parcours d'ado, et dans la vie d'adulte. Et donc, c'est disponible et ils sont capables de réguler, d'aller trouver du coup des ressources à l'extérieur quand ils sont dans des environnements qui sont un peu plus hostiles, de naviguer pour se dire, bon là, vraiment, c'est trop pénible, hop, je passe à autre chose, mais tu vois, sans rupture, avec quelque chose d'un peu souple. Et puis, il y en a qui n'ont pas pu construire, qui n'ont pas eu cette chose-là, et donc, du coup, dans l'ICV, qui est l'intégration du cycle de vie avec laquelle je travaille, on parle de fenêtre de tolérance. Donc, la fenêtre de tolérance, c'est toutes les situations dans lesquelles, voilà, j'ai des émotions que je peux réguler et avec lesquelles je peux fonctionner correctement, etc. Et puis, dès que je sors de ma fenêtre de tolérance, à ce moment-là, c'est en pilote automatique. Voilà, soit il n'y a plus de pensée, il n'y a plus rien, soit au contraire, je me mets en colère, j'explose, j'en peux plus, je fonds en larmes, etc. Trop d'émotions. Trop d'émotions vers le haut, trop d'émotions vers le normal. Et si ma fenêtre de tolérance, elle est large, bah, il y a une amplitude de situations dans lesquelles je peux fonctionner et ça me laisse tranquille. Si par contre, bah voilà, les choses sont pas très sécures à l'intérieur de moi, ça a toujours été un peu répétitif, il y a eu plein de petits trous dans ma construction intérieure. Alors à ce moment-là, ma fenêtre de tolérance, elle est petite, et à ce moment-là, bah assez vite, je vais arriver aux limites. Et là, effectivement, bah, soit j'arrive à me maintenir dans un environnement qui est stable pour moi et qui est OK, bon, puis je vais continuer comme ça. Il y a plein de gens, hein, qui vivent comme ça, avec... ça se passe, il ne faut pas que ça bouge de trop, hein, faut pas qu'il y ait trop de changements, faut pas que, voilà, mais ça passe,
ouais.
Et c'est pas forcément des vies, voilà, enfin, c'est aussi des vies qui ont plein de belles choses dedans, etc. Mais le risque, c'est effectivement, surtout dans notre société qui demande quand même beaucoup d'adaptation, qui est assez en tension, qui est assez exigeante, c'est qu'on n'arrive pas à se maintenir dans cet espace-là. Ouais. Et donc, du coup, bah, on va être trop sollicité, on va avoir, et ça va générer de la crise. Et c'est là où on va avoir, à ce moment-là, besoin d'un professionnel, de soutien, etc., parce que ça nous met trop en difficulté.
Ouais. Tu voulais dire un truc, Anso?
Oui, parce qu'en fait, ce dont tu parles, Bénédicte, ça me fait penser à... C'est une histoire de dosage, quoi, en fait. Faut trouver le bon dosage, ce qui n'est pas facile. Je voulais qu'on parle avec toi en plus des blessures liées à l'enfance.
Bah oui, forcément, on va atterrir là-dessus.
Et donc,
parce
du coup,
que
c'est le bon moment, je pense.
C'est le bon moment. On a tourné autour du pot plusieurs fois, on a parlé de traumatisme.
Mais je crois que c'était important.
Moi, j'ai dit que j'avais pleuré, tu vois, un moment. J'ai adoré ce moment, je me suis beaucoup touchée quand j'ai parlé de ça. Non, mais oui, ce que tu dis, voilà, les sensibilités de chacun ou la façon de gérer les environnements, ça dépend aussi, je me doute, de l'enfant intérieur, justement. Qui est en nous, que nous sommes, en tout cas, et qui est sûrement lié à ce qu'on a vécu. Je pense que quand on a eu un environnement émotionnel stable et sécurisant, et que cet environnement a pu perdurer au fur et à mesure qu'on grandissait, je suppose que ça rend des adultes peut-être plus en capacité de rester connectés justement à toutes ces couches à l'intérieur de nous et à s'adapter à plein de situations, alors que quand ça a été un peu plus compliqué, soit la toute petite enfance, soit après, soit tout le temps, ça doit être compliqué, ça doit être différent. Donc...
Déjà, avant d'aller plus loin, je tiens à dire que Bénédicte, elle a sorti un livre qui est super, qui s'appelle « Les blessures d'enfance, les connaître et s'en remettre ». Et du coup, j'aimerais déjà savoir si les blessures de l'enfance sont totalement... conscientisés ou parfois pas du tout.
La plupart du temps, elles ne le sont pas. Ouais. très souvent, elles ne le sont pas. Quand une personne, un adulte, vient consulter un psy, il vient consulter parce que il a des troubles du sommeil, parce qu'il est anxieux, parce qu'il n'arrive pas à atteindre les objectifs qu'il s'était fixés, il comprend pas pourquoi, et qu'il a fait déjà 3 ans de coaching, que ça va pas mieux, donc il se dit il y a peut-être un souci, ou parce que son coach lui dit il faudrait peut-être aller travailler avec quelqu'un d'autre que moi, parce que là c'est plus de mon registre. Mmh. Voilà. Donc voilà, ça c'est la première catégorie. Je pense que ça fait entre 50 et 60% des demandes d'accompagnement.
D'accord.
Après, on a, je sais, de toute façon, alors mes parents ont divorcé, ma mère était alcoolique, mon père nous frappait, voilà. Mais ça ne veut pas pour autant dire, en fait, qu'on sait la blessure. C'est-à-dire qu'on on a une idée d'une cause, mais on n'est pas forcément, d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'on a besoin de consulter, on ne perçoit pas, on n'intègre pas, parce que c'est trop douloureux, parce que c'est trop dangereux, ce que cette chose-là, cette réalité-là, a fait dans ma vie.
Oui.
Voilà. Parce que là, c'est vraiment de l'affectif. Et que oui, c'est terrorisant quand on a un papa qui lève, ou une maman, hein, voilà, ou un grand frère, qui lève facilement la main sur nous. Ou quand on ne sait pas dans quel état on va retrouver maman quand on va rentrer de l'école. D'ailleurs, accessoirement, tous les autres petits copains, ils ont une maman qui vient à la sortie de l'école. Et puis maman, alors qu'elle est à la maison, qu'elle ne travaille pas, elle ne vient pas à la sortie de l'école. Donc tout ça, c'est des petits coups au cœur. Mais comment dire ? On peut savoir qu'il y a ce problème-là, que cette difficulté-là. Aujourd'hui, en plus, la psychologie est quand même hyper répandue. Donc, on sait qu'a priori, c'est quand même un truc qui peut être un peu compliqué. Mais pour autant, on ne réalise pas forcément, on ne touche pas du doigt, on n'a pas forcément réussi à intégrer la dimension affective. Mmh. C'est pour ça que j'ai travaillé là. On a plein de choses aujourd'hui qui existent sur qu'est-ce qui se passe quand on a vécu telle ou telle adversité. On a des études assez consistantes aujourd'hui qui montrent que plus un enfant a vécu d'adversité dans la vie. Alors, quand on met adversité, ça va depuis la guerre, le kidnapping, en passant par, bien sûr, ce qu'on voit, ce dont on en parle enfin beaucoup, l'inceste, les abus, etc. Mais aussi des carences et des négligences. Plus un enfant en a vécu et en a vécu tôt, de façon répétée et grave, et plus on a de risques. Alors, c'est du risque, hein. C'est pas du cause que c'est quand. C'est pas parce que mon père m'a battu que pour autant je vais être malheureux toute ma vie. Hein. Merci. Enfin, alors, et inversement. Donc, et c'est pas parce que j'ai eu une enfance dite heureuse que pour autant je vais être un adulte heureux. Hein. Mmh. Je pense qu'il faut faire gaffe à des choses qui seraient très, qui pourraient être très culpabilisantes en plus. Enfin, hein. Qui le sont. C'est pas qu'elles peuvent, elles le sont. Mais voilà, on sait aujourd'hui que plus on a vécu dans l'enfance des situations adverses avec peu de soutien, parce que ça compte aussi, c'est-à-dire qu'il y a la situation adverse, et puis il y a qu'est-ce qui s'est passé quand la situation adverse est arrivée. Je prends un exemple, un enfant qui a perdu un parent, par exemple, on sait que c'est quelque chose qui est plutôt vulnérabilisant sur le plan psychique, parce que on est construit, notre humanité est ainsi faite que quand on est enfant, on a besoin des adultes pour nous construire, et qu'on a plutôt besoin d'un village entier que d'un seul adulte, par exemple. D'accord ? Donc quand il y a un parent qui décède, ou même qui part, hein, qui abandonne un enfant, ça fait partie des adversités de la vie. Bon. Si soit ça s'est passé et il n'y a eu aucune compensation, typiquement, et là, dans nos sociétés contemporaines, occidentales, modernes, on a beaucoup ça, d'accord ? Papa, on est abandonné par papa qui se barre, maman gère les enfants comme elle peut et du mieux qu'elle peut, mais il n'y a pas, on fait comme on peut, il y a de temps en temps des vacances ou des petits moments avec un grand-parent ou une tante qui prend, mais bon, c'est peu présent, etc. Donc, maman, elle fait face, elle serre les dents, elle fait du mieux qu'elle peut, mais il y a peu de présence en plus de cette maman, d'accord ? Eh ben, ça va pas faire la même chose que si dans la même situation, on est dans un village ou dans une communauté, hein, on va dans des quartiers, il y a des quartiers qui sont hyper solidaires et voilà, et où du coup, il n'y a pas de papa, mais il y a, entre guillemets, 3 autres papas qui vont prendre le relais, qui vont emmener le gamin en faire du foot, qui vont soutenir la maman pour qu'elle soit pas toute seule à faire un déménagement, etc. Et ça fait pas la même chose. Mmh. Donc, c'est ça qui est aussi important, c'est-à-dire qu'il y a des événements de vie, et puis il y a la façon dont ces événements de vie sont vécus et qui concernent pas que l'enfant et, entre guillemets, son premier cercle est beaucoup plus large que ça. Et c'était aussi pour ça que j'avais vraiment envie d'écrire ce livre de cette manière-là, c'est de dire, mais en fait, on est, nous, en tant qu'adultes, et ça va rejoindre un peu le propos qu'on évoquait tout à l'heure, on est aussi tous co-responsables des enfants qu'on côtoie. Parce que, justement, dans notre capacité à écouter, voir, percevoir, sentir que tel enfant, oh là, c'est compliqué, que là, hein, le petit coup de pouce à la maman, il serait bien, parce qu'on voit bien que les enfants sont un peu, enfin, que ça devient difficile pour tout le monde, et bien d'être d'avoir cette disponibilité, et ça peut être dans le bus, hein, voilà, un enfant, voilà, un enfant voilà, avec une maman qui est sur son smartphone parce qu'elle est en train de s'occuper même de choses très concrètes, hein, c'est pas forcément parce qu'elle est en train de se distraire, puis peut-être qu'elle a besoin de se distraire parce qu'elle a une journée absolument horrible, on a un enfant qui, là, qui regarde et qui comprend pas ce qui se passe autour de lui, bah, d'avoir juste, hop, ce petit, voilà, ce regard d'attention, de dire, bah ouais, je te vois, t'es une personne, et t'es pas juste avec des machins au-dessus de toi. Mmh. Voilà. Mais ça, c'est possible si notre enfant intérieur est disponible, si on est tranquille avec les parties de nous-mêmes, à différents âges, parce que ça peut être vrai avec un bébé de 3 ou 4 mois, enfin, 5 ou 6 mois, parce que 3 ou 4 mois, généralement, on les voit pas beaucoup, ils sont allongés, etc., dans le dos, ils sont vraiment. Mais voilà, 5, 6 mois, ils commencent à porter le visage, à le regard à l'extérieur. Mais ça peut être valable aussi avec un enfant de 7, 8 ans, parce que, bah, on a beau avoir 7, 8 ans et être grand et plein de ressources. Bah, parfois, quand on est tout seul dans le bus, on se sent vachement seul et on se sent un peu menacé.
C'est un
et
peu... ça. Ouais, pardon, j'allais dire, c'est un peu difficile.
Je suis trop longue.
Non, pas du tout.
Pas du tout, oh là là.
C'est super difficile d'être un enfant dans nos sociétés. Et puis, alors, j'ai pas vécu dans tous les pays du monde, voire qu'en France, hein, donc je vais pas pouvoir beaucoup comparer. Mais je vois déjà une différence, par exemple, avec ma femme qui est brésilienne, et on va de temps en temps au Brésil avec les enfants. Et de ma petite expérience, le seul truc que je constate, c'est que quand on est au Brésil, les enfants sont considérés comme des êtres vivants, c'est-à-dire comme nous, quoi. Si on va dans une boulangerie n'importe où, il y a quand même beaucoup de cas de figure où on va leur dire bonjour, ça va les enfants, y a une petite blague pour eux, machin. Et même dans les installations, de toute façon, tu le vois, quand tu vas au restaurant, y a, la plupart des restaurants, il y a des espaces de jeu pour les enfants, chose qu'on n'a absolument pas en France. Et donc, je reviens sur notre pays à nous, où l'enfant doit au restaurant se comporter comme un adulte. Alors, il y a peut-être une petite évolution, mais en tout cas, elle n'est pas assez grande pour moi. Et si je compare à... par rapport à mon enfance, voilà, la seule période de ma vie où j'ai été un enfant, et ben, j'ai senti ça, quoi. Je devais me comporter comme un adulte et pas faire de bruit, et puis tu peux pas bouger, tu peux pas faire ci, ça.
Ouais, puis il y avait la table des enfants, et la table des enfants. Ouais.
Et puis on te parle pas, en fait. Tu vas dans une pharmacie, même si c'est des médicaments pour toi. Attention, une fois de plus, j'aime pas faire une généralité, parce que heureusement qu'il y a plein de gens qui sortent du lot et qui sont des humains, encore hyper humains, et qui font du bien. Et eux, heureusement qu'ils sont là, quoi. Parce que même s'ils te sauvent un ou deux instants dans ta vie, c'est génial. Et c'est super difficile, en fait. T'as des adultes qui parlent entre eux. Ah bah, on voit ta mère, on va parler avec ta mère. T'as jamais un regard pour toi, t'as pas un bonjour. Et en fait, on se rend pas compte que c'est... Enfin, il y a un truc qui se passe chez l'enfant, quoi.
Ah ouais. En fait, moi, je dis souvent, notamment quand je suis en conférence avec des parents, je leur dis, mais de temps en temps, remettez-vous juste à hauteur d'enfant. Mettez-vous à la hauteur de votre enfant. Qu'il ait 6 mois ou qu'il ait 4 ans ou qu'il ait 7 ans, mettez-vous vraiment à sa hauteur. Hein. Coupissez-vous. Regardez de temps en temps le monde tel que votre enfant le voit. Pour vous rendre compte en fait, de ce qu'il voit et de ce qu'il ne voit pas. Et effectivement, d'avoir ce regard, les yeux dans les yeux, à la même hauteur et pas descendant, etc. Et tu dis très bien, moi j'ai été frappée... Tu parlais du Brésil, moi j'ai été frappée, je suis partie aux Philippines et puis je suis partie au Liban. Quand j'étais nettement plus jeune, il y a très peu de temps, hein, mais voilà. Alors sans faire d'image d'épinal un peu facile en disant ah ouais, les enfants pauvres, ils sont joyeux, gna 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 gna, avec un côté un peu lénifiant, un peu facile. Mais effectivement, j'ai quand même été assez scotchée aux Philippines où on travaillait avec des enfants des rues. Hein. Donc qui vivait dans la rue et la rue aux Philippines c'est pas juste je fais la manche, hein. C'est autrement plus violent mais ces enfants quand ils étaient dans des espaces sécures, il y a une joie de vivre, il y a une gentillesse, les sourires sont immenses et c'est là que je me souviens, alors c'était il y a un peu plus de temps, donc les enfants n'avaient pas encore de smartphone dans les mains à 8 ans ou 10 ans, mais déjà à l'époque, moi quand je me suis revenue en France, je me suis dit mais c'est fou, nos enfants ne sourient pas, ils sont sérieux, ils sont isolés, il n'y a pas cette joie de vivre. Alors une fois de plus, il ne faut pas faire d'angélisme et dire ouais, les petits pauvres ils sont heureux et nous on est malheureux, mais en fait avec le recul, ce que je me dis, c'est que ces enfants vivent ensemble. Ils vivent en communauté. Ils vivent, alors, en l'occurrence, bon, là, j'étais dans une asso qui s'occupait de ces enfants des rues, donc il y avait beaucoup de bienveillance, il y avait des adultes qui leur apportaient de l'écoute, du soutien, etc. Et tout de suite, voilà, la vie reprend. Et tu vois, tu évoquais les gens qui font du bien. C'est Cyrulnik qui en parle super bien. Il évoque plusieurs situations comme ça, d'enfants qui avaient vraiment des vies à la maison qui étaient compliquées et douloureuses, mais où le chauffeur de bus, le jardinier, qui est vu tous les jours et qui tous les jours a ce petit mot d'attention, et ben permet de tricoter ce qu'il appelle la résilience, ce qu'on appelle la résilience. C'est d'ailleurs quelque chose qui permet de vivre par-delà ou malgré la souffrance. Voilà. Ça fait pas la guérison. Voilà. Résilience, c'est pas avoir réparé, mais ça permet de tenir dans l'adversité. Voilà. Et de passer de passer le temps d'adversité pour tenter derrière de vivre autre chose, une autre situation.
Mais je trouve, tu vois, je parlais de notre époque, mais je trouve qu'aujourd'hui encore, je le vois maintenant que j'ai des enfants qui ont 5 et 7 ans, quand je suis à l'école, je vois bien qu'il y a encore ces gens qui sont à peu près de ma génération, qui ont dû grandir dans ces conditions-là, c'est-à-dire que c'était des enfants qui accompagnaient l'adulte, mais qui devaient s'occuper tout seuls et faire leur vie d'enfant et pas trop déranger les adultes, mais qui n'étaient pas dans des vraies interactions avec les adultes, qui aujourd'hui reproduisent ça avec leurs enfants de manière peut-être moins violente. Je pense qu'il y a quand même du mieux par rapport à eux, mais ça reste encore pas ça du tout. Et en fait, je me dis, est-ce que vraiment on va pouvoir changer ça? Est-ce que, enfin, la personne qui nous écoute là peut forcément se dire, tiens, oui, je peux faire mieux à tel ou tel niveau. Oui, tiens, peut-être que je prends pas le temps de discuter vraiment avec mon enfant parce que le soir j'ai ça à faire. Et attention, je remets pas ça en question. Évidemment qu'on a tous plein de trucs à gérer, mais voilà, je me demande des fois, c'est un peu vertigineux. J'aime bien ce mot aujourd'hui, mais quand je vois ce qui se passe autour, on peut ressentir ça pour tout, hein, pour l'écologie, pour tous les sujets. Et des fois, on regarde autour de nous, il peut y avoir un côté finalement plus stressant qu'autre chose, de se dire, oula, mais tout ça, ça fait trop mal, et comment est-ce que je fais ? Bon, on le sait de toute façon, hein, c'est aussi l'idée première de Pierre Rabhi, en tout cas celle que la plupart des gens ont retenue, c'est ce travail de colibri. Voilà, on peut faire chacun notre part, ça c'est sûr.
On a ça à faire, tu sais, je crois, vraiment. Ouais. Je crois qu'il faut être simple. Ouais. On a tous envie de révolutionner la planète, de changer, etc. Et d'une certaine manière, il ne faut pas éteindre cette flamme-là, parce que c'est elle qui nous donne la force d'avoir justement cette action du colibri. Si, tu vois, c'est-à-dire que, et c'est là où l'adulte est aussi important. C'est ma capacité d'adulte à dire, OK, c'est vraiment important, je ne peux pas juste me contenter de reproduire des journées indéfiniment les mêmes. Voilà, parce que si je fais ça, en fait, je meurs. Je m'éteins moi-même et puis j'éteins toute vie autour de moi. Mais voilà, donc c'est important que je contribue à transformer le monde. Mais je vais sortir de mes rêves de grandeur et je vais accepter que non pas je fasse juste mon petit truc dans mon coin, mais juste que je sois là où j'ai été plantée, où je me suis mis, et que de là, je vais pouvoir faire pousser quelque chose. Je vais pouvoir irradier, rayonner. Mais tu vois, je pars de moi. Et je parle pas à l'intérieur, voilà. Mais ça, pour ça, pour partir de soi à l'intérieur, il faut encore que je sois connecté au moins à l'intérieur.
Ouais, mais c'est pour ça que je voulais aussi qu'on, enfin, Anso, de toute façon, c'est qu'on en a parlé plusieurs fois ensemble. Mais c'est pour ça qu'on voulait parler de l'enfant intérieur, parce que je pense aussi qu'il peut y avoir un côté fatigant à cause des réseaux sociaux, et des choses qu'on voit là-dessus, parce qu'aujourd'hui tout le monde se veut spécialiste de n'importe quel sujet parce qu'ils ont lu les 4 accords Toltec. Ça y est, ils ouvrent un cabinet. Demain vous serez éveillé. Moi j'ai eu ça. J'ai fait de la thérapie de couple à un moment. Et la thérapeute nous avait dit, au bout d'une heure de consultation, vous devriez lire les 4 accords Toltec. Je suis attends, c'est sérieux? J'ai dit, attention, ouais. Parce que toi, si t'es allé chez Nature et Découverte, j'y suis allé aussi. Hein, c'est gentil, on aime bien Don Miguel, mais bon, je pense que c'est vraiment pas la lecture la plus secrète qui est en ce moment.
C'est avec cette thérapeute où ta femme avait pété un plomb, elle était partie?
Non. Ah non, il y en a eu une autre après, mais non, c'était une autre.
Vous avez eu du mal à trouver quelqu'un.
Bah, franchement, on va hyper bien depuis qu'on a arrêté de voir les thérapeutes. Il y a eu le confinement, on s'est retrouvés, puis voilà, ça a marché. Bref, tout ça pour dire que c'est hyper important. Mais tu vois, alors peut-être qu'on dérive un peu du sujet, mais ton point de vue de psychologue m'intéresse là-dessus pour finir. En fait, j'ai un peu peur de l'humain de base. Parce que j'ai l'impression que c'est facile pour nous de pointer du doigt les autres. Donc, quand tu es pauvre, tu peux pointer du doigt les riches. Pourquoi est-ce qu'ils ne partagent pas ? Quand tu es quelqu'un d'absolument oublié par la société, tu peux pointer du doigt quelqu'un qui a beaucoup de notoriété en disant « Mais regarde, il devrait se servir de son influence pour faire ceci, cela. » Et j'ai l'impression quand même que dès que l'humain a du pouvoir, je le trouve inquiétant. Parce qu'on a tous du pouvoir quand on réfléchit sur quelqu'un. Et je parle de ça parce que le rapport adulte-enfant peut me rappeler le rapport riche-pauvre ou politique et personne lambda. C'est-à-dire que nous, on est là, on a plus... Et puis, ou la société patriarcale, hein, évidemment, les hommes par rapport aux femmes. On est là, l'adulte, avec... plus de, on est plus grand en taille, on a plus de force physique, on a la capacité de dire toi tu sors, tu arrêtes, tu fais ça, alors qu'un enfant qui veut prendre le dessus, il n'y arrivera pas. Et quelque part, est-ce que le rapport adulte-enfant, c'est pas juste des gens avec un qui abusent de leur pouvoir en fait, plus que des gens qui veulent comprendre l'autre et accepter que c'est un enfant et que du coup il a des codes différents, mais que pour le comprendre et entrer en relation, il va falloir faire des efforts.
Ouais, je te rejoins bien volontiers. Et tu vois, ça me fait penser à un lecteur qui m'a fait un feedback sur le bouquin. Ça m'a hyper touchée. C'est un monsieur, pourtant, c'est vraiment, je le connais un peu, et c'est un monsieur qui est très doux, voilà, qui a 70 ans, quelque chose comme ça maintenant, mais qui a un grand-père. Et il m'a dit, mais ce livre m'a fait du bien parce que, en ce que il m'aide à être plus doux avec les enfants. Tu vois, et je me dis, en fait, c'est j'ai été hyper touchée parce que je me dis, c'est j'ai pas écrit ce livre pour ça, mais en même temps il y avait vraiment ce désir au fond dans l'écriture de dire, mais si je comprends, si je connais un peu mieux ce qui se passe comment ça fonctionne dans la tête d'un enfant que j'ai été et qui est encore chez tous les enfants qui sont en âge d'être enfants, alors à ce moment-là je peux mobiliser justement mon intelligence, ma volonté d'adulte pour me mettre à ce niveau-là. Bien sûr que chez l'humain, il n'y a pas que du bon. On est une humanité blessée. La perfection n'est pas de ce monde. Donc on a forcément des tensions. Selon son système de croyance et de référence, on va pas le nommer pareil, mais c'est évident. On va pas se voiler la face sur le fait que on est jamais à l'abri et on est toujours tenté par des choses qui sont mauvaises, qui sont égoïstes, qui sont mortifères, qui sont délétères. Donc oui, c'est toujours un risque. Mais qu'est-ce que je vais choisir de nourrir ? Est-ce que je vais choisir de nourrir la peur de ça et en augmentant du coup de la frustration, de la colère, etc. Ou bien est-ce que je sais que ça existe et je vais pas une fois de plus, pas d'angélisme, pas de naïveté, mais je vais m'attacher à nourrir les parties vivantes, les parties bienfaisantes, et celles-là, elles sont profondément disponibles chez l'enfant que j'ai été. Autant un enfant peut être entre guillemets égoïste, alors c'est pas égoïste, il est égocentrique parce qu'il n'a pas la capacité juste corticale à penser le monde au-delà de ce qu'il connaît. Voilà. Il n'a pas la capacité à se représenter, c'est pas qu'il veut les choses pour lui. C'est que il n'est pas en capacité de comprendre que s'il prête son jeu, on va le lui rendre. Ça, c'est l'expérience et c'est la contenance des adultes qui va lui permettre petit à petit de toucher ça, hein, et d'intégrer que on peut prêter un jeu et qui nous sera restitué, qui ne va pas disparaître pour autant. Tu vois, c'est des choses comme ça. Mais soit je fais le pari de la méchanceté de l'homme et à ce moment-là, je me replie sur moi. Et à ce moment-là, je m'enferme et je génère ce que j'ai décidé.
Oui, c'est soit... ça. Et je suis aussi, je suis l'exemple alors, même de ce que je dénonce, parce que forcément, exactement. Quand on est nourri par
je fais le pari de, la méchanceté, le mal, existe, j'essaye moi d'être la petite fleur d'ambitume, le colibri, etc. Parce que je sais que parce que je connecte aussi avec cette réalité-là, que on est profondément habité par un désir de vie. Parce que sinon, on ne se serait pas emmerdé, excusez-moi, mais on ne se serait pas emmerdé à vivre 365 jours fois 10, 15, 20, 40, 50 ans. Je veux dire, ben si, tu vois, s'il n'y en avait pas ça à l'intérieur de nous, mais qu'est-ce qu'on fout? Enfin, on ne serait pas ici.
Ouais.
Et qu'en plus, tout ce qu'on a pu traverser, des emmerdes, des patrons qui ne nous comprennent pas, des copains avec qui on s'engueule, des situations de comme on peut en vivre dans nos vies. Tu vois, donc si on est encore là aujourd'hui, et même, tu peux même dire ça à 10 ans et à 20, et plus t'avances dans la vie, et plus tu peux te dire, mais en fait, et puis, enfin, là, moi, je le vois aussi avec des patients qui vont, des personnes qui vont super mal. Tu te dis, mais qu'est-ce qui les tient en vie? Eh ben, un désir de vie. Voilà. Ouais. Parce que, pourquoi ils sont là? Bah, parce qu'il y a un désir de vie. On comprend pas parfois, mais dans leur vie pourrie, comment est-ce qu'ils, bah ouais, mais il y a un désir de vie. Et je trouve que ça, c'est un vrai témoignage, tu vois. Et ça dit aussi que, à l'intérieur, même s'ils le sentent pas, même s'ils le voient pas, il y a cet enfant qui est là. Est-ce que c'est lui qui... Enfin, tu vois, c'est cette part de nous pour dire que dire l'enfant intérieur, c'est aussi quelque chose de... Cette soif de vie, ce désir de vie. Et la vie, c'est bah, aller vers les autres, c'est grandir, c'est explorer, c'est tout ça. C'est ce que tu vois un arbre, dès qu'il a ce qu'il faut, bah, il va faire des plus nouvelles, il va faire des feuilles, il va tenter de s'élargir, il va faire de la collaboration avec des animaux et des parasites, etc. etc. Ça génère de l'écosystème, ça génère de la relation.
C'est ça qui
oui,
nous
mais l'arbre, il n'a pas de paperasse à faire, lui, il n'a pas des trucs à envoyer. Ouais,
et, il doit affronter le vent, le gamin qui lui met des coups de canif pour dire A et B égale love.
Non, c'est... J'étais pendu à tes lèvres. Il y a juste un truc. Attends, excuse-moi. Je voulais faire le plein de la voiture et je reviens. Non. Il y a juste un truc, c'est que moi, en fait, je pense pas que penser que le. Je pense pas penser. C'est marrant. Que l'humain soit mauvais, tu vois, qu'il soit animé par des mauvaises choses ou foncièrement bon, foncièrement mauvais. Effectivement, je pense qu'on a un mélange un peu de tout. Et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais. Bon, après c'est un autre débat, mais en tout cas, je trouve que la meilleure arme qu'on puisse avoir, c'est toi, c'est tous les gens. Ou tous les outils qui nous permettent simplement de nous poser, de prendre du recul et de réfléchir, de se poser des questions. Parce qu'il est là aussi le piège, c'est de penser, tiens, l'ennemi, c'est lui, ou alors telle ou telle personne est mauvaise parce que... Et oublier de se remettre en question soi, mais même avec douceur, quoi. Je prends telle décision, ok. Ouais, surtout avec douceur, c'est ça que tu disais, ouais.
Ouais, ouais,
pourquoi est-ce que je me positionne là? Pourquoi est-ce que je prends cette décision? De temps en temps, juste, ok, est-ce que je suis en train de faire ça pour des raisons qui me semblent bonnes ou pas? Et pourquoi? Et autant moi, je sais que je pense être dans l'extrême, je pense que je me pose trop de questions tout le temps, ce qui m'empêche de vivre, autant ne pas s'en poser du tout. Ça peut être un peu problématique, c'est ce qui fait que des fois on avance
oui,
tête baissée, quoi.
Et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure en plus avec notre comportement avec
tu peux vomir,
les enfants notamment. Mais excuse-moi, j'ai subi une grave opération.
Oh.
C'est pas vrai. Non, mais effectivement, j'avais un
glaire. Attends, tu plaisantes.
En plus, elle a fait ça, elle a pas fait ça à l'hôpital, hein. c'est des cousins pour 15 euros.
Mais ça revient exactement à ce que tu disais tout à l'heure pour ne pas reproduire ce côté-là, ces comportements avec l'enfant où on lui impose non seulement des tais-toi, va te coucher, mange à telle heure et des idées aussi, des points de vue, quoi, qu'on leur broie le crâne avec ça. Si tu te poses pas de questions, tu reproduis juste des schémas qu'on t'a imposés toi-même. Alors, comment dire aux gens, bah, posez-vous des questions.
Il faut,
c'est ça qui est difficile.
Il faut de la psychologie obligatoire.
Ouais,
quoi.
Ouais, il faut un peu de psychologie, mais et vraiment de la psycho et pas du boogie-booga. Voilà.
Après, il y a les 4 heures à Cortoltech qui remplacent un psychologue. Hein. Il suffit voilà, de le dire plein de fois.
Non, mais j'ai rien contre les 4 heures à Cortoltech. Hein, ils disent des choses qui sont très, très précieuses, mais c'est des
Je suis d'accord, ouais.
Et en fait, c'est pas le même niveau. C'est ça, moi, c'est ça qui m'embête un peu aujourd'hui, c'est que à force de mettre, comment dire, de tout mettre au même niveau, on finit par confondre sagesse de vie, connaissance de voilà, ouais, sagesse, philosophie, etc. Et psychologie, c'est-à-dire processus psychique et réparation psychique. Ce qu'aujourd'hui, on sait super bien faire aujourd'hui. Alors, on ne sait pas tout guérir. Hein. Il y a une nana qui a écrit « on peut tout guérir », mais je dis « hop, 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 hop ». Restons modestes. Hein. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, on essaye de réparer, on améliore des choses, on essaye de mieux vivre avec, on essaye de rouvrir des perspectives, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je sais pas très bien ce que c'est de guérir à fond les ballons. Enfin, voilà, c'est un vrai sujet, une vraie question. Mais oui, comment dire, de la même manière, j'ai envie de dire que manger équilibré, prendre des probiotiques, etc., ça fait du bien à la santé, ça fait de la prévention. Très bien. Mais quand on a un cancer du pancréas ou du foie, bah, à un moment donné, on est bien content d'avoir des choses qui vont un petit peu plus loin que les huiles essentielles, etc., nonobstant l'intérêt que ça peut avoir. Mais vous voyez, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ce qui fait du bien dans l'absolu, ce qui est plutôt intéressant et qui, voilà, et qui permet de nourrir un peu. Et puis, il y a la compréhension assez large qui permet d'aller poser des actes de réparation, de soins dont on peut avoir besoin. Même si on fait beaucoup de psychopédagogie, nous, on en fait énormément. Moi, je disais il y a quelques années, je me disais, mais c'est fou quand même, j'ai l'impression de passer 70% de mes consultations à faire juste de la bon sens thérapie, quoi. C'est-à-dire de mettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire, on mange, on dort, on fait autre chose que d'être sur son ordinateur, on ne mange pas devant un écran. Enfin, voilà, j'avais l'impression de passer beaucoup, beaucoup de temps à ça avant de pouvoir commencer à faire de la vraie psychologie. Bon, on continue à faire beaucoup ça tous, mais on ne fait pas que ça. Et puis, ça fait partie de quelque chose qui est plus large, qui s'appelle créer de la confiance, créer du calme, ouvrir des espaces justement de dialogue. Et je voulais dire tout ça pourquoi? Parce que une des choses qui nous fait le plus de bien, au-delà des psys, mais voilà, il est hors de question de mettre un psy derrière chaque personne, et puis ce serait pas une bonne chose. On peut faire plein de choses sans les psys aussi, hein, on n'est pas forcément indispensable. Mais une des choses qui vraiment fait du bien à chacun d'entre nous, c'est de passer du temps avec des gens qui sont calmes et tranquilles. Et tu vas faire déjà le point, se dire, OK, qui sont les gens? Quelles sont les personnes que je connais plus ou moins bien, parce que parfois c'est des personnes que je vois très peu, mais quand je suis avec elles, je sens que c'est calme et tranquille. Je ressors de là, on n'a pas forcément fait des grandes discussions, on n'a pas forcément fait des grandes choses, mais quand je sors de là, il y a quelque chose qui s'est posé, il y a quelque chose qui s'est détendu, qui s'est adouci. Et bien ces gens-là, cultivez la relation avec
Donc mon dealer, alors je vais
eux.
noter. Pas vrai.
Calme et tranquille quand tu vois ton hiver, bah t'as de la chance parce que
Non, non, mais je vois ce que
relation qu'il est calme et tranquille, mais chacun son truc.
je vois, bah, tu vois, ça veut dire que j'en ai jamais vu. Alors, je sais pas, j'imaginais des espèces de mecs hyper cool, mais
Ouais, pas du tout intéressé par l'argent, pas du tout.
non.
Tourner vers l'autre,
C'est ça. Moi, je fais ça parce qu'en fait, je reverse les fonds à des associations. Mais oui, je pense qu'on a tous croisé ces gens. Il y a un peu il y a des gens qui ont une sagesse en fait. On ne sait pas d'où ils la prennent. Hein. Ce n'est pas forcément des gens qui sont allés méditer pendant 30 ans
Ah non.
au Tibet. Et des fois, ils sont justement dans des vies qu'on pourrait imaginer comme horribles, trop difficiles, et que d'autres personnes auraient vécu totalement différemment. Mais bon, il y a sûrement beaucoup de résilience là-dedans, et un amour aussi qui est là, un amour de la vie, un amour des choses simples, un amour de l'autre, qui fait que ouais, ils t'enlacent, quoi. Ils t'enlacent avec leurs mots, avec leur attitude, ils t'apaisent et
Tranquille, ne
ouais.
cherche pas à avoir d'action sur toi. Tu vois, ils sont vraiment, c'est ce que j'évoquais sur cette espèce de rayonnement. L'autre jour, je regarde un bout d'émission, alors je sais plus ce que c'était, etc. Ça m'a fait rire parce que, enfin, j'ai trouvé intéressant une jeune femme qui avait vécu un burn-out après avoir vécu alors, dans un environnement hyper concurrentiel de la mode, etc. Voilà, donc à fond. Et elle était voilà, elle était au sommet de son développement professionnel. Et puis, elle raconte que voilà, régulièrement, elle allait voir sa grand-mère. Sa grand-mère, elle ne lui posait pas de questions sur son boulot. Elle lui disait, bah, comment tu vas? Et puis ensuite, elle continuait sa vie, elle faisait ses confitures. Enfin, alors, dit, bah. Et en fait, elle raconte comment bah, régulièrement, comme ça, elle allait voir sa grand-mère. C'est clairement une personne calme et tranquille hein, dans sa vie, c'est une personne ressource. Et puis, bah, quand elle a craqué, bah, elle est allée chez qui? Elle est allée chez cette grand-mère. Alors, je ne sais pas si elle a fait une thérapie que ça, je passe à l'enjeu, mais clairement, vous voyez, tu vois, c'est vraiment ce truc-là, disait, mais en fait, voilà, amour enfin, acceptation inconditionnelle, t'es là, ma fille, je pense qu'à l'intérieur, la grand-mère, elle disait, mais complètement à l'ouest, ma petite fille, elle est complètement à côté de la plaque. Mais alors, elle posait pas elle n'est pas cherchée à la convaincre que ce qu'elle faisait, qu'elle était en train de se faire du mal, qu'elle ne connaissait pas, que je sais pas comment. Juste, et ça va? Ah, ça t'intéresse? Ok. Alors, tu vois, juste tranquille. Et ça nous, on en a vraiment besoin. Mais ça nécessite d'être tranquille à l'intérieur de soi.
Oui,
Et
c'est
donc,
ça.
évidemment, tranquille avec son enfant intérieur. Et on revient sur cette question-là et te dire, bah, en fait, voilà, je suis pas sûre que cette grand-mère, elle ait fait 60 ans de psycho et effectivement 25 stages de méditation. Juste, elle était.
Ouais, et puis reconnecter avec cet enfant intérieur, que ça commence par l'ouverture d'un livre et que ça se poursuive autrement, avec des discussions, avec une consultation chez un professionnel si on se sent l'envie d'essayer. C'est des choses qui peuvent changer une vie parce que moi, évidemment, peut-être que j'idéalisais le truc à une époque en me disant qu'à force de travailler sur moi, j'allais être cette espèce d'être flottant dans l'air heureux qui nage dans le bonheur sans plus jamais connaître le stress. Bon, c'est faux. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a quand même changé beaucoup de choses, et notamment la relation à mes parents, puisque j'ai compris beaucoup de choses. Et puis, il y a du coup plein d'émotions qui sont arrivées, des émotions pas forcément sympas. Et c'est pour ça qu'ils sont aujourd'hui enterrés dans mon jardin. Mais je leur demande. Non. Mais aujourd'hui, par contre, voilà.
Qui est hyper soupe-au-lait.
Je suis un peu soupe au lait, j'avoue. Non, non, on a parlé de plein de choses et puis eux aussi, ils ont pu comprendre plein de trucs et tout s'est apaisé. Et puis, on revient sur ce que tu disais au début aussi, ça permet de. On apprend à se pardonner soi et pardonner aux autres sincèrement. Pas juste dire pardon, mais comprendre un petit peu tout. Et ça, c'est des clés aussi qui nous aident, même dans notre relation à l'autre, tout court. Avant de cataloguer telle ou telle personne en disant justement c'est un mauvais, c'est une mauvaise personne ou quoi, on comprend qu'on n'a pas toutes les cartes en main, qu'on fait tout ce qu'on peut. Et quand on arrive avec plus de compréhension, d'apaisement, de bienveillance, ça change notre vie, quoi. Et si ça change notre vie, ça doit changer un peu celle des gens autour et ça, c'est cool.
C'est trop beau ce que tu dis.
J'ai pas écouté ce que j'avais dit. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous parce que franchement, je crois qu'on t'a retenu peut-être un peu. Non, ça va, une heure?
Ouais. Une heure pour une personne grippée, je vais te dire, elle a
c'est
fait
beaucoup.
Zéro faux pas, Bénédicte. Elle a été super. Je rappelle quand même son livre, Les blessures d'enfance, les connaître et s'en remettre. Et puis, on va se faire des gros câlins.
C'était un super plaisir de. Ça veut rien dire. C'est un super plaisir de parler avec toi.
Ah non, si, c'était vraiment un trop, 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 trop chouette moment.
Et puis, c'est sympa d'être avec des gens qui sont vivants et qui. Voilà, qui sont plein de bonne humeur, ça fait un bien fou.
Ouais. Après, vivant, vivant, je te rappelle que je me suis fait opérer.
Oui, et puis bonne humeur, je te rappelle qu'on a un dealer.
Et là, il est quand même bien là.
Ouais, ça va, ça va. Ça va, on est encore en forme. Mais tu vois, c'est ce qui nous tient, nous, pour le coup, c'est les rencontres. Et même si elles se font à travers un ordinateur, ça, c'est nourrissant toujours. Et donc, ça fait du bien. Et on espère que les gens ont passé un agréable moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire sur les réseaux sociaux pour qu'on devienne riche et connu et qu'on puisse s'acheter des Porsches. C'est notre objectif de vie.
Merci beaucoup, en tout cas, Bénédicte. Et puis, j'espère à très vite.
Ouais, à très bientôt, j'espère aussi.
Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et sachez que vous pouvez nous soutenir.
Ça se passe sur Tipeee. Tipeee. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains.
Merci par avance.
Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci.
Et bien à vous.
À vous également.
Au revoir.
Cordialement.
Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.